radio-g.fr. Un point, c'est tout.
Bienvenue dans l'émission 30 minutes de bonheur. Nous allons passer 30 minutes ensemble à semer des graines que vous pourrez arroser et voir grandir. Nous nous retrouvons tous les vendredis à 9h10 des semaines impaires afin de cultiver notre jardin intérieur. Bonjour Émilie.
Bonjour Sophie. Donc aujourd'hui, nous recevons Claire Brugeron. Bonjour Claire.
Bonjour.
Donc tu es fasciathérapeute et aujourd'hui tu vas nous faire découvrir qu'est-ce que la fasciathérapie, à quoi ça sert, comment ça peut aider les gens. Voilà, donc avant de commencer, si vous souhaitez réagir à notre émission, vous pouvez le faire sur le site internet de Radio G, www.radio-g.fr. Donc Claire, eh bien, écoute, je te laisse la parole. Tu vas pouvoir commencer par nous expliquer comment tu en es venue à la fasciathérapie. Quel est ton parcours qui t'a amené qu'est-ce qui t'a amené à la fasciathérapie?
Alors la fasciathérapie, je la connaissais fin des années 80. J'avais des amis qui se formaient. Bon, j'en entendais parler comme ça. Oui, bon, ça a l'air intéressant. Puis en même temps, ça me paraissait un petit peu mystérieux. Et puis un jour, complètement par hasard, je devais aller me faire opérer. Je remonte chez moi pour chercher mon sac que j'avais oublié. Et là, alors à l'époque, il n'y avait pas les portables, un ami m'appelle et me dit « Oh, salut, coucou, qu'est-ce que tu fais ?»« Bah écoute, je vais me faire opérer, les enfants sont casés, j'ai la semaine, tout va bien. » Et là, il me dit « Mais est-ce que tu as essayé la fascia ?» Je dis « Bah non. » Il me dit « Bah écoute, viens, on est en stage de formation, viens, ici il y a des tonnes de thérapeutes, il y a tous les profs, tu vas te faire traiter. » J'hésite 3 secondes, je téléphone à la clinique, je dis écoutez, non, je viendrai pas. Je prends ma voiture et direction le midi et je suis arrivée en stage de formation. J'explique mon cas et là je me suis fait traiter. Et au bout d'une semaine de traitement, je suis passée dans différentes mains, j'ai pu constater les semaines d'après que mon problème était réglé. Et donc je ne me suis pas fait opérer, je me suis dit c'est quand même super intéressant ce truc. Voilà, et puis je suis rentrée dedans et puis je me suis formée. Je crois un an plus tard, j'ai commencé à me former un an plus tard. Donc ça, c'était début des années 90. Donc ça fait assez longtemps que je pratique la fasciathérapie.
Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la fasciathérapie est... Enfin, est-ce que les gens connaissent que c'est pas très connu les fascias?
C'est pas du tout connu, même si en ce moment il y a une espèce de regain d'intérêt. Enfin, depuis une dizaine d'années. Au début, les fascias, ça vient du nom latin fascia qui veut dire bandelette. Donc en réalité, c'était tous les tissus conjonctifs du corps, donc les aponévroses, les tendons, les ligaments, les méninges, la plèvre. Et avant, on considérait que c'était un peu comme du papier d'emballage. Voilà, ça emballait les organes, mais l'important c'était les organes. Et puis il y a eu Guimberto, qui est un neurochirurgien de la main, et qui voulait restituer la parfaite mobilité des mouvements de la main, la complexité, et pour ça il a mis une petite caméra à l'intérieur pendant ses interventions chirurgicales. Et il s'est aperçu qu'il y avait une vie des fascias, et que cette vie était hyper importante, et puis ça a été le début d'une recherche. Tous les X années, il y a un grand congrès international où il y a des anatomistes, des physiologistes qui s'intéressent au fascia, et on se rend compte de plus en plus que le fascia, finalement, ce qu'on prenait pour un tissu inintéressant, eh bien, il est fondamental. Guimberto va même jusqu'à dire que le fascia, c'est l'élément structurant du corps, et que finalement, dans le corps, ce ne sont que des variations du fascia qui va s'épaissir pour former des tendons, qui va se différencier, mais que c'est à l'origine le fascia, l'élément de base du corps. Donc il y a toute une recherche hyper intéressante, mais comme toute avancée de la médecine, je pense qu'il va falloir encore beaucoup d'années avant que ça rentre vraiment dans une considération par le corps médical. Alors, par exemple, les chirurgiens le savent bien. Ils savent que quand il faut recoudre chaque nappe, chaque
épaisseur.
Chaque épaisseur du corps pour qu'ensuite il n'y ait pas de conséquences ou moins de conséquences au niveau des adhérences, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui se fait, mais c'est vrai que les médecins connaissent peu, les fascias, les kinés un peu plus. Et puis dans le public, on a un petit peu tardé à se faire connaître. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un fasciathérapeute, en réalité, c'est pas un nom qui est déposé. Donc n'importe qui peut s'arroger le titre de fasciathérapeute. Et d'ailleurs, il y a des fasciathérapeutes qui sont formés en 3 week-ends par un institut. Je ne dirai pas son nom. D'ailleurs, je l'ai oublié. Mais je m'en étais aperçue. Voilà. Moi, je viens de la fasciathérapie méthode Danny Bois. C'est lui qui a, voilà, dans les années 80, au début des années 80, il est kiné et ostéopathe et puis il se rendait compte que, bah, quand il travaillait manuellement chez les patients, il y avait autre chose que ce qu'il avait appris. Donc, il a étudié, il a observé, et puis ensuite, il s'est mis à former plein de gens.
Et pour se former, il faut déjà avoir un niveau en parallèle, en kiné ou autre, ou c'est ouvert à...
Alors
à
maintenant, la formation, il y a eu, voilà, dans la formation, il y a eu un petit peu de changement. En ce moment, les gens sont formés à Clermont-Ferrand. Et puis, effectivement, il y a un cursus qui est réservé aux kinés-ostéos. Je crois que même qu'il y a un cursus spécial ostéo, mais c'est ouvert au public, pour les gens qui viennent du travail du corps et du sport. Moi, par exemple, au départ, ma formation de base, c'est j'ai une licence TAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Voilà, je viens du monde du sport. Mais j'ai fait ma formation avec des kinés, des ostéos, des médecins, voilà, à l'époque.
D'accord. Très bien. Et donc, du coup, donc suite à cette formation, donc là, tu as ton cabinet.
Mmh.
Et donc, comment ça se passe une séance voilà,
Alors, les gens qui en entendent parler maintenant, comme c'est un peu plus courant, et puis moi, j'ai un site internet. À un moment donné, les gens qui arrivent chez moi, c'est des gens qui ont déjà quand même un parcours assez long. Ils ont eu des séances de kiné, ils ont eu des séances d'ostéo, ils ont un parcours assez long. Ils ont essayé beaucoup de choses, ils ont essayé l'acupuncture, ils ont essayé les médicaments, ils ont essayé beaucoup de choses. Ils arrivent un peu en queue parce que c'est pas connu et puis ils cherchent une solution. Voilà. Donc je vais avoir une clientèle plutôt qui n'a pas trouvé de solution avant. Souvent, parfois qui est en errance médicale, ils savent pas vraiment ce qu'ils ont. Ils ont fait des tonnes d'analyses et puis il y a rien aux analyses, mais qui ont des symptômes. Des gens qui ne sont pas pris peut-être suffisamment en compte, où on leur dit non, tout ça c'est dans votre tête. Voilà, j'en ai quand même beaucoup. Et puis des douloureux chroniques. C'est compliqué d'être douloureux. Voilà. Et puis j'ai des gens qui viennent pour des aspects physiques, pour des aspects psychologiques. Et puis même quand on vient des fois pour du physique, il va falloir aborder l'aspect plus psychologique ou psycho-émotionnel. J'ai des gens qui viennent pour du psycho-émotionnel, qui a des répercussions sur le physique. Les deux sont intimement liés.
D'accord, ce que j'allais me dire, oui. Du coup, pour moi, fascia, c'est vraiment le physique pur. Mais donc, ça a un impact, ça peut jouer...
Complètement.
Par exemple, quelqu'un qui en déprime, ça peut complémenter, je sais pas si ça se dit, la prise en charge médicale avec des médicaments, voilà. Mais ça peut aider...
Alors moi, je me place toujours dans une perspective complémentaire. Mmh. J'ai aucun avis médical à donner, j'ai aucune compétence là-dedans. La personne, elle vient avec ses symptômes, avec ce qu'elle a mis en place pour essayer de les faire disparaître ou de les atténuer, et je viens en soutien. Par exemple, moi, tous mes patients, ils voient le kiné, ils voient un ostéopathe, ils sont souvent médicamentés. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout choc physique ou psychologique s'inscrit dans le corps. Le corps n'oublie rien. Alors le cerveau non plus, mais sauf que parfois on est dans le déni ou ça va plonger dans notre inconscient, mais le corps n'oublie rien. Il y a toujours une trace. Par exemple, chez les gens, vous avez un coup du lapin, un accident, 30 ans après, vous savez pas pourquoi, vos cervicales sont un peu raides. Elles sont un peu raides parce que sous le choc, tout votre système myofascial, donc muscles et fascias, s'est crispé, s'est contracté. faire face au choc. Hein. On s'est cramponné au volant, la tête s'est retenue pour pas partir trop en arrière. Et puis finalement, ce tonus ou ce choc physique, cette espèce d'hypercontraction physique, au fil des temps, puis si la personne a été voir son kiné, etc., ça s'est un petit peu amenuisé, mais il reste des traces. Et donc ces traces, elles vont pouvoir après être réactivées sur un nouveau choc ou sur une tension, je dis n'importe quoi, au travail. Hein, la personne, elle serre des dents, elle fait le dos rond pour passer un moment difficile dans sa journée de travail ou parce qu'il y a un stress répété. Et du coup, ça va comme faire surgir de l'inconscient du corps, de la matière corporelle, cette tension qu'elle avait oubliée. Et souvent, quand on travaille, la personne dit « Ah !» et puis elle évoque la situation. Elle dit « Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai eu un coup du lapin. Ah, j'ai oublié de vous dire... » Parce qu'au début de la séance, on fait une sorte d'anamnèse. Quels sont les symptômes? Pourquoi? D'où ça vient? Quand? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment ça évolue? Qu'est-ce qui n'évolue pas? Qu'est-ce qui change? Voilà. Donc oui, tout choc est un trauma, des chocs psychologiques, un stress chronique ou un stress ponctuel provoquent des tensions dans le corps, des crispations. Et du coup, la capacité du corps à se relâcher, elle est amenuisée. Et le grand travail, ça va être ça, ça va être que la personne lâche prise, éventuellement dans sa tête, mais surtout dans son corps, puisse retrouver un processus de relâchement qui va permettre un travail, parce que plus la personne va être relâchée, mieux je vais travailler, pour aller gérer les symptômes qu'elle a, en travaillant sur les fascias, à différents niveaux de profondeur.
Et donc, vas-y.
Et grâce à votre pratique, la fascia, vous allez enlever le symptôme. Elle va plus se rappeler après, par exemple, le coup du lapin.
Alors, elle va toujours se rappeler parce que votre souvenir, il s'efface jamais.
Oui, mais la cicatrice va s'effacer petit à petit.
Alors, on va pas dire comme ça. Au début, moi, quand j'ai pratiqué, je pensais qu'effectivement, on enlevait, que ça partait. Et maintenant, avec le temps, avec mon expérience, je sais que ça ne part pas, mais on vit avec et on trouve un nouvel équilibre avec lequel on peut vivre confortablement. Voilà. Mais il y a des mots pour lesquels on arrive juste à diminuer la symptomatologie, mais des fois, c'est très compliqué de l'effacer. Et c'est très mystérieux. C'est-à-dire que... des fois, je dis aux gens, les gens ils viennent en attendant un peu un miracle. Hein. Ils ont fait des dizaines et des dizaines de séances autres. Et moi, ils voudraient qu'en 3 séances, ce soit réglé. Et moi, je leur dis souvent, non, je ne peux pas promettre le nombre de séances. J'ai dit non, je ne fais pas de miracle. Mais parfois, il y a des miracles qui se produisent. C'est-à-dire que des gens viennent avec des symptômes qui durent depuis des années. Et des fois, en une séance, ça se règle. Et pour d'autres cas où je me dis, bon, ça n'a pas l'air très important, une petite entorse de rien du tout. Ben non, c'est pas une petite entorse de rien du tout. Des fois, ça dure beaucoup plus longtemps. Et la personne, elle a des symptômes et elle a des effets délétères pendant beaucoup plus longtemps. Donc, ça dépend comment le corps va réagir. Ça dépend de la personne, là où elle en est, si elle est prête à lâcher. Ça n'a rien à voir avec l'expérience qu'elle a, du travail qu'elle fait sur elle, etc. Il y a des patients qui me disent, oui, moi j'ai l'habitude, je fais beaucoup de travail sur moi. Ben non, c'est pas forcément les plus faciles avec lesquelles travailler. Des fois, il y a des personnes qui n'y connaissent rien, ils viennent, pof, ils se déposent sur la table et puis ça se règle. Donc voilà, il n'y a pas de schéma. J'aimerais bien, ce serait plus sympa, plus facile, mais il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de... C'est un accompagnement, et puis dans cet accompagnement, voilà, il se passe des choses. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que des fois, la personne vient pour un symptôme, mais en réalité, c'est un millefeuille. C'est-à-dire que son symptôme en cache un autre, qui en cache un autre, et à un moment donné, au bout de... Alors des fois, ça se fait pendant une séance, et puis la personne, elle lâche le pétard, quoi. Elle lâche la cause. Voilà, et puis d'autres fois, c'est plus compliqué. Voilà, moi depuis le temps que je fais ce métier-là, il n'y a pas de règle.
Et vous êtes basée où?
Alors moi je suis Square Lafayette.
Ok, sur Angers.
Sur Angers, oui.
Très bien. Et tu nous disais tout à l'heure, tu as un site internet, peut-être que tu peux nous donner l'adresse de ton site internet si des personnes sont intéressées de venir découvrir la fasciathérapie.
Donc c'est fasciathérapie-angers.fr.
Donc, Claire Brugeron.
Okay.
Et donc on va peut-être faire une petite pause musicale et ensuite on va pouvoir tu vas pouvoir nous donner plus de détails sur quel type de mots, enfin faire sur quelle problématique tu peux intervenir un peu plus en détail.
Ok, très bien. Donc Claire, tu as choisi comme musique.
Alors Mika Over My Shoulder avec dans une captation dans un concert avec je sais pas comment on appelle ça, un contre-ténor ou un anciennement les castrats ou un contre-hutte je crois, qui est absolument sublimissime.
OK, bon on découvre ça alors. À tout de suite.
Feels like I'm falling.
De retour dans l'émission 30 minutes de bonheur avec Claire Brugeron qui est fasciathérapeute. Donc Claire, dans un premier temps, tu nous as parlé de la formation, de comment on devient fasciathérapeute, qu'est-ce que les fascias. Et là, on a évoqué un petit peu aussi comment tu procèdes quand tu as quelqu'un qui vient. Et donc là, on va peut-être pouvoir voir ensemble vers quel type de mots, plus en détail, tu peux intervenir et comment ça fonctionne.
Alors, quand les gens prennent rendez-vous, ils prennent rendez-vous pour une multitude en réalité de raisons. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils viennent pour des problèmes physiques. Voilà, ils ont une capsulite, ils ont un mal de dos récurrent, des lumbagos, ils ont du mal à retrouver, par exemple, de l'équilibre après une entorse. Donc, ils viennent pour des maux purement physiques. Et puis, beaucoup de personnes viennent pour le stress et les effets délétères du stress, comme des difficultés de sommeil, comme, de la tachycardie, comme une hypervigilance qui les empêche d'être entre guillemets cool dans leur vie, et puis pour des aspects plus psychologiques, de la dépression. Quand on est déprimé, on sort un peu de son corps, on n'est plus très présent. Et puis pour des choses plus pour des compétences plus psychosociales, le relationnel, etc. Par exemple, une fois j'avais une infirmière qui se sentait mal considérée dans son service, qui disait qu'à chaque fois qu'elle prenait la parole, on l'écoutait pas, on la prenait pas au sérieux. Et en réalité, on s'est aperçu que, sans s'en rendre compte, elle avait une mimique qui manifestait le doute. Donc à chaque fois qu'elle parlait, elle avait en même temps une mimique de doute avec ses yeux. Elle faisait un espèce de mouvement avec ses yeux. Donc d'en prendre conscience et de travailler un peu là-dessus, de ressentir mieux les muscles de son visage,
Voilà, c'est comme ça. Donc comment tu as pu l'aider? Parce que là, du coup, je me dis, alors quel est ton rôle là dans le fascia? Comment tu peux intervenir par rapport à cette mimique ou qu'est-ce qui?
Alors moi, peut-être par rapport à d'autres fasciathérapeutes, ma pratique a évolué assez rapidement vers l'aspect plus psycho-émotionnel et comportemental. Donc par exemple, quand quelqu'un vient dans mon bureau, je regarde comment il marche, comment il s'assoit, comment il croise les jambes, comment il interagit avec moi. Ça va être une partie de mon décryptage. Voilà. Ensuite, j'écoute. Je me base sur l'anatomie pour travailler les différents symptômes. Et puis, je vais travailler physiquement. Les fascias dans son corps, elle va s'allonger. Voilà. Si ça ne suffit pas, ou si je constate qu'elle doit faire quelque chose dans son quotidien que je ne connais pas, je vais investiguer. Et puis je vais observer comment elle se tient, assise, comment elle se tient debout, comment elle est posée sur ses jambes, où va son regard. Je vais investiguer, je vais chercher qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le travail de libération que moi je sens dans le corps ne tient pas. Voilà, parce que moi j'ai des repères de sensations pour voir ce qui évolue dans le corps. Et parfois, ce que je sens qui évolue, la personne elle-même le sent, elle voit l'évolution de ses symptômes. Moi, je travaille le fascia, c'est-à-dire je vais lui rendre sa fonction de base, qui est une viscoélasticité, un peu comme de la pâte à modeler qui va s'étirer. Donc sous mes mains, ça doit s'étirer, ça doit être chaud. Il doit y avoir du vasculaire dedans. Il va y avoir des sensations élastiques à distance. Je vais pouvoir aussi aller vers plus de profondeur, un peu comme quand on enfonce ses mains dans de la pâte à modeler. Voilà. Le fascia, en fonction des différentes parties du corps, il a une consistance un peu particulière. Un fascia d'épaule, c'est pas la même chose qu'un fascia de la ponévrose plantaire. C'est pas la même chose qu'un fascia intracrânien. C'est pas la même chose qu'un fascia au niveau abdominal. Chacune a une consistance et a des particularités propres sous la main. Donc quand il y a un problème dans ces zones-là, mon objectif c'est de restituer le mouvement du fascia, sa capacité à s'étirer, sa viscoélasticité, sa chaleur, un certain nombre de critères. Et donc quand je constate une amélioration de ces critères-là, normalement ça va mieux. Et donc si ça ne va pas mieux pour la personne, on va chercher la couche en dessous, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va remonter des fois des fils d'histoire ou qu'on va dénouer une pelote de laine au fur et à mesure. Et là, ça dépend de l'histoire des gens, ça dépend du background de l'apparition des symptômes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre schéma tensionnel, c'est comme un iceberg. À un moment donné, plouf, ou comme un glaçon. À un moment donné, plouf, le glaçon sort du fond de, ou l'iceberg sort du fond de l'océan. Et la partie émergée sont les symptômes qu'a la personne. Mais il y a la partie immergée, ça c'est mon boulot. Voilà. De travailler sur l'émergé, mais aussi de travailler sur l'immergé. Voilà. Et des fois, il y a un énorme iceberg en dessous, puis des fois, c'est un petit iceberg. Donc, le travail va jouer là-dessus. Voilà. Donc, effectivement, la personne, elle va, très rapidement, elle va me dire des choses. C'est-à-dire, elle va pas juste me dire, ah bah oui, l'épaule, ça va mieux. Elle va commencer très souvent, mais peut-être aussi parce que j'ai l'ouverture là-dessus, à me parler de ses problématiques, à me dire que, bah oui, l'épaule, finalement, c'est arrivé à un moment où, ta, 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 ta. Et donc, on va aussi travailler là-dessus. Et je vais essayer de donner des informations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fascia, c'est un tissu. Et ce tissu, par exemple, il a besoin d'être hydraté correctement. Il y a plein de gens qui ne boivent pas assez. Il a besoin d'être nourri correctement. Et donc, parfois, l'alimentation va pouvoir aussi jouer un rôle. Donc, j'ai aussi un rôle, mais parce que j'ai fait un DU là-dessus, un peu de prévention santé. Donc, moi, je donne les indications. La personne, elle s'en saisit ou pas. C'est pertinent ou pas pour elle, ça dépend. Donc je vais être aussi amenée dans l'accompagnement à un moment donné à dire ce serait peut-être bien d'essayer telle ou telle chose. Est-ce que c'est efficace ou pas? Il y a des gens pour qui c'est flagrant, par exemple l'alimentation, en changeant un peu l'alimentation. D'autres pour qui ça n'a aucune incidence. Donc voilà.
C'est vraiment un ensemble. Enfin là, dans ce que je comprends, donc tu as le titre de fasciathérapeute, tu en as d'autres également. Et donc en fait, c'est vraiment une. Toi, tu travailles avec. Tu peux pas travailler que sur les fascias. Finalement, il faut prendre en compte la globalité, quoi.
Oui, parce qu'en réalité, quand j'étais étudiante et qu'on prenait des patients, j'ai un monsieur qui vient en disant oh là là, regardez, j'ai plein de boutons sur les bras, puis de toute façon ça me démange, puis toutes les nuits je suis obligée d'aller prendre un bain froid parce que vous comprenez, ça me gratte de partout, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Bon, j'ai dit oh là là, je suis étudiante, j'y connais rien du tout, je sais pas du tout, bon on va essayer. Première séance, je le traite, puis je me dis oh c'est bien, ça avance bien, bon le monsieur s'en va. Il revient à la deuxième séance, et moi je pose la question, alors, puis il me dit oh non, rien du tout. Moi, je dis bah je suis désolée, je suis étudiante, j'ai pas d'expérience. Vous voulez continuer? Oui. Bon. Deuxième séance, je traite, je me dis bah quand même ça va mieux. Voilà, bon. Bon, j'espère que ça vous fera du bien. Merci monsieur, au revoir. Pof, il revient à la troisième séance parce que j'avais dit on va essayer sur trois séances. Il revient à la troisième séance et puis alors non. Bon. Bon, je le traite en disant, écoutez, je suis désolée, je peux pas faire mieux. Voilà, bon, je le travaille. Puis, au moment de nous dire au revoir, il voit ma mine complètement dépitée. Et puis, il me dit, oh là là, ma petite dame, mais faut pas le prendre comme ça, vous savez. Moi, je me lève plus la nuit, ça me gratte plus. Et alors, il remonte ses manches, il me dit, mais regardez les boutons sur mes avant-bras, c'est toujours pas parti. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait vraiment, vraiment poser les questions très précises. Parce que les gens vont vous dire, oh non, c'est pas mieux. Parce que les gens, ils veulent qu'il n'y ait plus rien du tout. Ils veulent presque que leur vie change. Mais non. Donc, petit à petit, comme ça, donc maintenant, je suis beaucoup plus pointue dans les questions que je pose sur les retours. Je prends des notes, comme ça, je dis, vous m'aviez dit la première fois que non, où est-ce que c'en est? Ah ben, ça, c'est mieux. Ah oui, non, ça a pas changé. Ah oui, ben, ça, plus du tout. Alors que si je leur pose la question comment ça va, ça va pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent me voir, parce que ça va pas. Donc voilà, il y a tout ce jeu aussi de prise de conscience des gens, de leur état, de ce qui change, de ce qui change pas. Et ça participe à la conscience de comment fonctionne leur corps, du rapport qu'ils ont avec leur corps. Parce qu'il y a des voilà. Et puis peut-être que quand ça va pas, alors que ça va mieux, qu'est-ce qui va pas? Voilà, c'est quoi en vrai ce qui va pas? Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut, que parfois c'est possible de n'isoler que le physique. Oui, parfois, oui, c'est ça. Mais c'est des gens, on va les voir une fois ou deux, puis c'est tout. Puis après, ils téléphonent en disant, j'annule mon rendez-vous parce que voilà, j'ai plus mes symptômes de, voilà. Et puis d'autres fois, ça va être un travail plus long. Et des fois même, je dis aux gens, ce serait peut-être bien de consulter un psychiatre ou un psychologue ou, voilà, d'essayer autre chose.
Et on peut venir te voir en prévention? Bah, comme on vit tous des choses, on vit tous comme aller voir un ostéopathe, on peut aller voir un ostéopathe une fois par an pour voir notre corps si
Radio
se sent bien, pour éviter d'aller
www.radio-g.fr.
Dix minutes dans le noir. La chronique polarde de Radio G.
Et bienvenue dans 10 minutes dans le noir, votre petit moment polar en BD sur Radio G.